14h,
la France bouge. Elisabeth Assayag.
Bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. L'équipe de la France bouge est là pour mettre en avant vos projets, vos initiatives, car c'est vous, vous êtes les acteurs de ce changement. À mes côtés pour en parler, Dora Nana de la rédaction d'Europe 1. Bonjour Dora.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous et à toutes.
Et notre coach de la semaine, Marie-Éloi, bonjour.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
C'est déjà vendredi, hein, mais pendant une heure, là, vous allez donner des conseils, challenger tous nos entrepreneurs.
C'est un grand plaisir d'être ici.
Et ben, nous sommes ravis aussi. On commence par un projet. Bonjour Isabelle Desportes.
Bonjour à toutes.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes la fondatrice de Tethys. Tethys, ça s'écrit T-E-T-H-Y-S.
Tethys,
vous fabriquez des coques de téléphone. Alors, attends, écoutez tous, hein, des coques de téléphone en peau de saumon recyclé. Et oui, ça existe. Alors, vous allez nous présenter votre projet qui n'est encore qu'à l'état de projet, mais heureusement, vous êtes là. On va le décortiquer. On va essayer de vous donner le maximum de conseils. Vous allez donc faire votre pitch. On vous écoute. Vous avez 1 minute 30.
Tethys, donc c'est une marque d'accessoires de luxe éthique. Donc les premiers produits que nous avons développés, comme vous l'avez dit, donc ce sont des coques de téléphone portable. Pourquoi éthique ? Parce que nos coques sont à la base imprimées en 3D à partir de filaments d'amidon de maïs. Et puis nos coques sont recouvertes ensuite de cuir de poisson. Donc nous avons opté pour le cuir de carpe de dombe, qui est une matière déposée. Et qui est surtout une matière première locale, au tannage végétal. Donc c'est un cuir qui est vraiment soyeux, qui est très doux au toucher. C'est vraiment un cuir qui est surprenant et qui donne vraiment un caractère, du caractère à nos coques, un caractère, je dirais, chic et rare. D'ailleurs, nos coques ont plutôt une ligne élégante, épurée, sobre. Concernant la fabrication, donc nous avons bien sûr opté pour un savoir-faire local, hein, pour rester conforme à nos valeurs. Donc nous avons des maroquinières et des entreprises locales. La promesse donc de Tethys aujourd'hui, vous l'avez compris, donc ce sont des produits de luxe, éco-responsables et fabrication française. Tethys aujourd'hui, donc c'est une jeune marque qui pour moi est prometteuse et qui souhaite donc s'implanter sur le marché du luxe. Ses prix d'ailleurs s'alignent sur ce marché et nous avons besoin de nous faire connaître et de trouver surtout des points de vente pour commencer notre commercialisation, réaliser nos ventes tests et trouver des investisseurs qui pourraient nous aider à nous développer.
Merci Isabelle, vous avez un petit peu dépassé la minute 30, mais je crois qu'on a tout compris, hein, Dora, Marie. En fait, je vous laisse poser votre première question, Marie-Éloi.
En fait, c'est tellement incongru que ça marque les esprits. Oui, et en même temps, c'est tellement cohérent quand on y réfléchit parce que c'est éthique, c'est recyclable, la peau de carpe ou de saumon. Oui. En plus, vous utilisez la tech avec l'impression 3D. J'ai vu une des photos sur votre compte LinkedIn, c'est vraiment sublime. Votre logo est aussi magnifique, il est bien positionné sur le luxe. Et puis, vous avez le parcours qu'il faut parce que vous avez été auparavant consultante en création d'entreprise, donc vous connaissez toutes les ficelles. L'idée de lancer une campagne, c'est effectivement très adapté à votre produit car ça va vous faire connaître. Effectivement, c'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui. J'espère que l'émission va vous aider, c'est de vous faire connaître parce qu'évidemment, les gens vont en parler. Moi, je n'ai pas de conseils à vous donner. Vous avez tout là. Donc, go, il n'y a plus qu'à y aller maintenant.
Il n'y a plus qu'à y aller maintenant. Vous avez la bénédiction de Marie-Éloi, franchement. C'est un très bon signe. Moi, je voulais revenir sur votre positionnement. C'est un produit de luxe. Qui dit produit de luxe implique un prix. Alors, vous vous situez comment au niveau des tarifs?
Alors, donc, je m'aligne effectivement au marché. Donc, je suis sur 250€ la coque.
250€ la coque. Au niveau des grandes marques de luxe, est-ce qu'elles n'ont pas déjà dans leur rayon ou dans leur catalogue des coques comme ça de un peu luxe, un peu de téléphone? Je pense aux très grandes marques, aux grandes maisons françaises.
Ah oui, tout à fait. Les grandes marques ont leurs coques, leur gamme de coques, mais qui sont plutôt recouvertes de cuir d'alligator, de crocodile, de serpent.
Votre différenciation, c'est vraiment sur la peau de saumon.
Le cuir de poisson.
Le cuir de poisson.
Et le recyclage.
Et comment vous allez vous adapter avec tous les téléphones qui changent constamment de forme, de taille? Comment vous allez faire pour la production?
C'est une vraie question. Alors bien sûr, étant donné que nous nous adressons au marché du luxe, nous allons rester sur des téléphones haut de gamme. Donc nous allons prendre, on va dire, on se positionne sur le iPhone 11, 11 Pro pour l'instant, tant qu'il ne changera pas, sur le Samsung aussi haut de gamme. Donc on est vraiment sur deux, trois modèles, si vous voulez. Mais bien sûr, nous allons pouvoir évoluer en fonction des nouveautés. Après, l'impression 3D permet vraiment d'imprimer la quantité nécessaire, si vous voulez. Il n'y a pas de surstock. Mmh. Il faut développer le fichier, effectivement. Et puis après, on pourra, à la limite, répondre à une demande précise.
Ça, donc, ce sera quasiment du sur-mesure. Ça pourrait être de la fabrication à la demande.
Oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas. Dora, oui. Vous avez une question.
Oui, moi, le téléphone, c'est quand même un accessoire de luxe en tant que tel. Déjà, il est cher. Mmh. Comment vous le protégez? Parce qu'on parle de la beauté de la couverture, mais est-ce qu'on est sûr qu'il est bien protégé, notre téléphone, avec votre solution?
Alors oui, il est bien protégé. Nous avons d'ailleurs rehaussé d'un demi-millimètre la coque de façon à ce que si elle tombe à l'envers, si la vitre du téléphone tombe sur le sol, par exemple, eh bien la coque protège. La vitre ne touchera pas le sol, la surface, et ça reste élégant. On ne voit pas... La surélévation.
Ouais, donc il reste protégé.
Il reste protégé. C'est quand même le but principal d'une coque aussi. Mmh. Effectivement, c'est un accessoire de mode, d'ailleurs, qu'on peut changer, assortir à ses vêtements, puisqu'il y aura différentes couleurs proposées. Mais on respecte, bien sûr, la sécurité de l'appareil.
Marie-Éloi, une dernière question pour vous.
Et puis, vous avez d'autres produits dans les cartons aussi.
Oui.
Je crois que c'est un premier produit d'appel.
Effectivement, parce que aujourd'hui j'autofinance mon projet, donc effectivement j'avance petit à petit.
Mais il y a des bracelets de montres.
Voilà, j'envisage
dans la même matière, en peau de saumon.
Pour les montres en peau de saumon, voilà, et en cuir de carpe. Donc, ce sont pour des montres en bois. Donc, j'ai déjà le partenaire pour la montre en bois. Et nous pourrions proposer les bracelets. Et j'aimerais aller aussi vers les colliers pour les chiens et les chats.
Mais alors, j'ai juste une petite question. Collier chien, chat, d'accord. Mais pour les montres, l'odeur, la peau de saumon, est-ce qu'il y a une odeur particulière ou ça reste...
Est-ce que vous n'avez pas eu l'occasion de sentir du cuir de poisson pour l'instant? Alors, il faudra... Eh bien, écoutez...
Rassurez-nous, alors.
Oui, je vous rassure, ça ne sent absolument pas le poisson. Et ça sent même très bon le cuir. Et
c'est
pour ça que
parti,
je disais tout à l'heure dans mon speech que c'est un produit, un cuir surprenant, parce que beaucoup de personnes ont été bluffées par ce cuir. Et effectivement, le premier réflexe, c'est de sentir et de se dire, ah, mon Dieu, c'est du poisson, ça va sentir le poisson.
Et ce n'est pas le cas. Marie-Éloi, vous aussi, vous êtes bluffée aussi.
J'ai hâte de voir ça en vrai.
Ouais, moi aussi. En tout cas, ça s'appelle Tethys, T-E-T-H-Y-S. Merci à vous. Isabelle Desportes, merci d'être venue nous présenter votre projet.
Il est 13h16. Il est 13h19, c'est l'heure, Elisabeth, de découvrir la solution du jour avec Dora Nana.
Mais oui, vous êtes une entreprise, un siège social qui veut dépoussiérer ses locaux pour rendre le lieu plus productif pour les collaborateurs, que les collaborateurs se sentent un peu mieux. Eh bien, Dora, vous avez la solution et ça s'appelle Dynamic Workplace.
Oui, car depuis quelques années, Elisabeth, on assiste à un phénomène nouveau. Les sièges sociaux sont de plus en plus désertés par leurs salariés. En cause, un univers de travail qui ne correspond plus à nos attentes. Face au travail nomade et au travail, les chefs d'entreprise doivent trouver de nouveaux moyens de séduire. Les télétravailleurs, notamment, doivent leur donner envie de revenir dans les locaux. Il faut repenser, réinventer les espaces, les rendre plus conviviaux et créer une nouvelle dynamique. Et justement, c'est la mission de Dynamic Workplace. Bonjour Philippe Morel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le président donc, de Dynamic Workplace. Déjà, il y a un vrai phénomène, c'est-à-dire qu'il y a l'ampleur de ce phénomène fait qu'aujourd'hui les entreprises doivent se réinventer, de redynamiser leurs locaux.
Oui, absolument. C'est-à-dire que le phénomène n'est pas nouveau, vous le disiez. Ça fait déjà quelques années que schématiquement les collaborateurs progressivement, de plus en plus nomades. Consomment de moins en moins les espaces tertiaires qui leur sont proposés, l'espace de travail principal, parce qu'ils le trouvent pas toujours très efficient, pas toujours très digitalisé et surtout pas toujours très agréable, très convivial. Et donc, de plus en plus, nous tous, on a été progressivement un peu plus travailler dans des espaces de coworking, bien sûr, mais également dans des hôtels, des restaurants, dans des hubs de gare, etc. Et plus récemment, c'est vrai, avec la crise, à notre domicile. Et tout cela a changé considérablement la vision que les collaborateurs avaient de leur maison commune, de la maison commune que représente le siège social ou l'espace de travail principal de l'entreprise.
Alors vous arrivez quoi comme solution? Vous arrivez dans une entreprise, vous proposez quoi de tout changer? Comment on dynamise un lieu? Vous parliez de créativité tout à l'heure. Comment on dynamise un lieu?
D'abord, chaque entreprise a sa culture, son ADN. Donc ça, c'est très important de pouvoir vraiment s'imprégner de tout cela avec les collaborateurs. Nous, on travaille beaucoup avec chacun des collaborateurs.
Vous leur demandez leur avis.
Avec les tribus. Une tribu, c'est quoi? C'est une tribu d'une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de collaborateurs qui correspond souvent à un métier. Et on va voir dans le détail, finalement, ce dont ils ont réellement besoin. Parce que fondamentalement, 99% des collaborateurs ont juste envie de bien travailler. Donc avoir de bonnes conditions de travail qui leur correspondent en fonction de leurs propres attentes métiers. Faut-il un poste fixe? Faut-il plusieurs postes à l'intérieur du même bâtiment? Quelles technologies ils mettent à leur disposition, etc. Donc ça, c'est un point absolument crucial. L'autre point, c'est de redonner envie. Et redonner envie, c'est redonner de l'énergie aux collaborateurs. Aujourd'hui, on peut tous, ou en tout cas une très grande majorité, travailler à l'extérieur du bâtiment principal. On a donc la possibilité de venir plus ou moins à l'intérieur de ce bâtiment. Et pour y venir, eh bien, il faut qu'on y trouve une qualité de vie qui soit supérieure à ce qu'on pourrait trouver finalement en restant à son domicile, etc. Et donc, ce que l'on fait, c'est au travers de notamment tout le rez-de-chaussée qui est absolument fondamental, c'est le lieu d'énergie finalement.
Ah, le rez-de-chaussée, c'est important.
Le rez-de-chaussée, c'est là où se crée l'énergie dans le bâtiment et donc dans l'entreprise.
Et donc, il est comment le rez-de-chaussée idéal pour vous, pour avoir plein d'énergie et être très productif?
En fin de compte, les équipes, nous on table, alors c'est peut-être un peu curieux d'ailleurs, dans l'univers digital qui nous entoure de plus en plus, mais on table énormément sur l'humain. Quels sont parmi les collaborateurs, collaboratrices qu'on met à la disposition des entreprises, les personnes les plus empathiques qui vont pouvoir vraiment vous transmettre finalement l'énergie?
Non, mais c'est quoi l'énergie au rez-de-chaussée par exemple?
Ah, vous allez... Notamment, tout ce qui est attrait, au service. Alors, on a des services qui viennent baisser la charge mentale des collaborateurs. Hein. Donc, des services qui rendent service.
Mais par exemple,
bien sûr, la conciergerie, bien sûr, la réception de colis, bien sûr, l'ensemble de démarches qui peuvent, entre guillemets, vous nuire à la qualité de votre journée, d'une part. Et puis, des services qui rendent, au-delà de ceux qui rendent service, des services qui font plaisir. Et donc, ça, c'est bien sûr tout ce qui est lié aux animations, au sport, aux activités de détente. Alors, quelques exemples très concrets, des séances de lecture par exemple, des collaborateurs, on organise avec des collaborateurs, collaboratrices, des séances de lecture à destination de l'ensemble des collaborateurs qui veulent y participer. Environ 10 à 15% des collaborateurs ont envie de passer ces moments-là. Même chose pour le jardinage, même chose pour le sport, les éléments de détente, etc. Donc il y a vraiment des moments de convivialité qui sont très très importants et qu'on va retrouver, qui vont contribuer au fait qu'on ait envie de revenir retrouver ses collègues, parce que quand on passe un bon moment avec eux au rez-de-chaussée, on va potentiellement passer aussi un bon moment quand on travaille avec eux dans un projet, etc.
Mais enfin, ils sont payés pour venir aussi, donc j'ai l'impression que vous leur proposez des tas de belles choses, mais bon, ça reste des collaborateurs d'entreprise, ils viennent aussi pour travailler, il ne faut pas perdre de vue
non seulement
l'objectif.
Ils viennent travailler, ils viennent pour travailler, ils ont envie de travailler. Et simplement, depuis quelques années, ils transmettent à leurs dirigeants d'entreprise le fait que pour bien travailler, mieux vaut parfois être à l'extérieur du siège social. Et ça, c'est un élément qui perturbe, alors qui coûte beaucoup d'argent aussi à l'entreprise.
Oui, c'est ça, on va y venir justement. Marie-Éloi.
Oui, c'est vrai que ça fait partie de cette dynamique pour retenir les salariés et qui s'est accélérée avec la crise, parce qu'il y a eu de plus en plus de télétravail. Donc finalement, on en parlait il y a quelques jours, mais les lieux de travail sont devenus plus des lieux de rencontre que finalement de travail individuel. Moi, j'avais deux questions parce que j'ai regardé votre site. Alors, c'est vrai qu'il donne envie. Par contre, j'ai eu du mal à voir clairement la différence par rapport à un décorateur, un architecte d'intérieur. Et quand vous expliquez que vous offrez des services en plus, là, je le comprends mieux. Mais je pense qu'il y a à travailler la lisibilité de l'offre et puis savoir à quel type d'entreprise cela s'adresse, quelle taille d'entreprise.
D'accord.
Allez-y.
Effectivement, c'est aussi un chemin qu'on procède. Moi-même, j'ai dans ma carrière fondé notamment des espaces de coworking, une entreprise Nextdoor à l'époque, Wojo aujourd'hui, que nous avons revendu au groupe Accor. Et tout cela, effectivement, milite pour deux choses. D'une part, il y a deux tempos finalement dans notre action qui s'adressent principalement, c'est vrai, à des grands espaces tertiaires, donc plutôt à des grandes entreprises.
Donc plutôt grands groupes, vos clients, ce sont des grands groupes.
Voilà, tout à fait. On accompagne notamment le groupe Vinci, le groupe Auchan, Maïf Massif sur des sujets.
Et vraiment montrer que vous n'êtes pas qu'un architecte d'intérieur, enfin qu'un, c'est pas ça, mais vous faites plus que ça. En plus, c'est pas juste de la décoration, de l'agencement immobilière, mais c'est
un package complet.
C'est vraiment le package complet.
Exactement. En phase amont, on travaille finalement sur le coût immobilier par collaborateur, parce que beaucoup d'espaces inutilisés, c'est aussi beaucoup d'argent pour l'entreprise. l'entreprise. Et cet argent, on peut le remettre sur la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment, entre autres. Et donc, première étape, on améliore finalement le ratio de coût par collaborateur, coût immobilier par collaborateur. Deuxième étape, on améliore finalement la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment au travers de prestations, notamment humaines.
Améliorer la qualité de vie du collaborateur, c'est ce que vous faites avec Dynamic Workplace. Merci à vous, Philippe Morel.
Il est 13h26. Europe
1. C'est bientôt la fin de l'école, pas question de tout oublier pendant l'été, surtout un été si spécial, hein, post-confinement. Heureusement, les cahiers de vacances sont loin d'être dépassés, ils cartonnent. Restez avec nous, c'est le dossier du jour, à tout de suite.
Cet après-midi dans La France Bouge, on s'intéresse aux cahiers de vacances prisés en temps normal. Il l'est encore plus après cette période de confinement, Elisabeth.
Je fais des exos de mal. De la conjugaison, un peu d'orthographe, dédicté à la con, c'est fou.
Pas dédicté à la... Donc des conjugaisons, des exos de maths, on les connaît tous, hein, ces cahiers de vacances, Céline, Marie, Dora, classiques dans lesquels l'enfant suit chaque jour une partie du programme. Nous avons un invité, une invitée en studio qui, elle, a souhaité sortir de l'approche classique des cahiers de vacances en proposant des situations d'écriture variée, des histoires à compléter en ligne, adaptées à l'âge et aux compétences de l'enfant. Et notre invitée, c'est Aude Guénaud. Bonjour Aude.
Bonjour.
Co-fondatrice de Plume Plume. Si vous nous suivez, Plume, c'est le trophée de l'avenir Europe 1 2020 dans la catégorie éducation. Et là, vous avez un petit peu, vous gardez votre activité, hein, mais vous avez adapté pour l'été, pour entraîner nos enfants à l'écriture pendant l'été, c'est ça ?
Oui, absolument. En fait, on a souhaité s'appuyer sur l'expérience et les énormes retours qu'on a eus pendant le Covid de la part des parents et des enseignants pour proposer un format de cahier de vacances qui est un format nouveau, un format qui est à la fois physique et digital. C'est-à-dire que si vous commandez votre cahier de vacances sur Plume, vous allez recevoir un livret de progression mais aussi des tutos rigolos, des conseils de lecture, des astuces d'écriture, des goodies, etc. Et on va vous guider chaque semaine pour écrire votre histoire. Vous allez avoir des rendez-vous d'écriture. Et en fait, on souhaite vraiment dépoussiérer le format du cahier de vacances parce que, évidemment, le Covid nous a montré que les enfants avaient besoin de formats innovants pour apprendre et qu'il fallait s'adapter à tous.
Mais c'est quoi alors ce format innovant ? En quoi est-il si différent ?
Comment est-ce que ça va se passer ? Je vais vous faire rêver. Donc, vous allez précommander sur Ulule votre cahier de vacances.
Donc, là, vous êtes en pleine campagne.
Exactement.
Donc, on y va sur Ulule.
Exactement. Vous allez sur Ulule souscrire au cahier de vacances Plume. Vous allez recevoir dans quelques jours le livret pour progresser. Donc, en fait, un véritable parcours dans l'écriture à la fois de la littérature classique et de la littérature jeunesse. Toutes les semaines, vous allez avoir des conseils d'écriture adaptés pour votre enfant, des tutos vidéo. Des défis créatifs, on va envoyer des cartes postales, on va faire tout un tas de choses. Vous allez recevoir des conseils pour faire une vraie progression en expression écrite sur l'application.
Puis, alors, mais donnez-nous des exemples, parce que déjà dans tout ça, il y a une prof, il y a la prof de Plume, c'est Madame Perruche
Madame Perruche,
on va passer l'été.
Et on l'adore, Madame Perruche, elle fait une véritable odyssée estivale de l'écriture.
Alors, des
et chaque
exemples.
Semaine, alors par exemple, la première semaine, c'est la semaine de l'aventure. Et donc, vous allez partir à la rencontre de Robinson Crusoe. Vous allez écrire une histoire adaptée aux compétences de votre enfant. Vous allez avoir des tutos sur comment est-ce qu'on décrit un personnage. Vous allez avoir du contenu littéraire sur qu'est-ce que c'est que la Robinsonnade, etc., etc. Donc, on s'appuie à la fois sur un suivi avec un livret physique, mais on propose en fait des contenus vidéo et on propose vraiment un parcours dans l'application Plume pour faire progresser l'enfant.
On est pour les 8-12 ans.
Écrite. Exactement, les 8-12 ans.
Marie-Éloi.
Oui, je crois qu'ils reçoivent des courriers parce que j'ai vu votre petite vidéo avec votre fille, je crois, qui est très bien faite. On comprend très bien tout le concept. Moi, ça me parle beaucoup parce que c'est inspiré de la méthode Montessori.
Tout à fait.
Voilà, j'ai cofondé il y a 9 ans une école Montessori.
Bien.
Et effectivement, cette période de 8-12 ans, 8-11 ans, c'est la période sensible pour l'écriture.
Absolument.
Donc, c'est vraiment là où l'enfant est prêt à développer son projet d'écriture. Vous abordez aussi le sujet avec beaucoup d'humour.
Merci.
Et ça, c'est très concret aussi avec, à la fin, son livre. Je me demandais comment vous faites pour faire travailler l'écriture à la main. Parce qu'on voit bien sur votre vidéo que c'est très digital, qu'on utilise la tablette, l'ordinateur. Mais est-ce que l'enfant travaille la pratique ?
Complètement.
Parce que je parle de façon...
Tout à fait.
En fait, en connaissance de cause.
Tout à fait. Nous, on veut avoir un rapport à l'écriture qui est un rapport joyeux. Et je vous remercie de dire que ça vous a fait rire. Parce qu'on veut montrer combien écrire, c'est quelque chose de plaisant, de créatif et de beau. C'est à cette condition que les enfants vont véritablement progresser. Et tous les enfants n'ont pas les mêmes parcours. On a des enfants qui rencontrent des difficultés, par exemple des troubles des apprentissages, et qui ont besoin de ce recours au numérique. Ça va être très précieux pour eux. Ils vont avoir des imagiers, ils vont avoir la police pour les enfants dyslexiques, ils vont pouvoir écouter les textes, c'est très important. Et d'autres enfants, ils aiment écrire sur des carnets. C'est le cas de ma fille, elle écrit sur des carnets. Pas de problème, elle a 9 ans. Pas de problème, il suffit de prendre en photo ce que l'enfant a écrit. Et ça se charge sur l'application. Ce qu'on veut, nous, c'est proposer l'outil le plus innovant possible pour enchanter l'écriture par tous les moyens.
Ça va être le prix d'un cahier de vacances classique.
Exactement, ça va vous coûter, si vous prenez un mois, 19,90 € et 2 mois, 34,90 €, avec tous les goodies, les parcours d'écriture, un accès illimité à l'application, les corrections personnalisées et à la fin, l'impression du chef-d'œuvre de votre enfant.
Ah oui, c'est-à-dire qu'on passe du digital au physique et ça, c'est vachement important. Dora, le bon vieux cahier de vacances, on s'en aperçoit, on va le voir pendant toute la durée de l'émission, il est toujours et encore à la mode.
Oui, c'est indémodable. Bon, il voit passer les générations, il se modernise, on le trouve désormais en version numérique, comme on l'a vu à l'instant, mais il ne connaît pas la crise. Il s'en vend environ plus de 4 millions par an. Le bon vieux cahier version papier est toujours plébiscité. Autre chose qui ne change pas, on ne les termine jamais, sauf si 2020 nous réserve encore des surprises. Mais c'est vrai que le cahier de vacances, on ne le finit jamais.
Sauf sur plume. Merci Aude Guénaud. Donc on y va là, c'est en pleine précommande sur Ulule, rappelez-nous.
Sur Ulule, jusqu'à dimanche, vous pouvez les précommander et on commence tous nos cahiers de vacances plume le 6 juillet.
Eh bien, on a tout enregistré. Vous le disiez, Dora, 2020 nous réserve encore des surprises. Alors, je vais vous proposer un autre cahier de vacances pas classique. Pourquoi ne pas découvrir l'histoire de notre pays dans un cahier de vacances? Eh bien, Stéphane Bern en a eu l'idée. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous nous emmenez dans vos valises cet été, Stéphane?
Écoutez, oui, j'espère en tout cas. Moi, j'adorais, étant gamin, avoir des cahiers de vacances qui permettaient de faire justement, comme le disait Madame Guénon, c'est-à-dire faire des révisions utiles. Mais moi, je me suis dit, mais au fond, pour l'histoire, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui existe, qui soit à la fois ludique et éducatif, qui permette de transmettre aux jeunes générations l'amour de l'histoire. Et pas qu'aux jeunes générations, parce que ça se... Moi, je les ai fait, ces exercices du cahier de vacances.
Vous avez tous fait, là ?
Oui, je me suis amusé à les faire. Et il y en a pour de 7 à 77 ans.
Voilà.
C'est un peu comme Tintin. Donc, je trouve ça plutôt agréable. Par exemple, il y a des quiz très simples. Mettez la bonne épouse à tous les rois de France. Alors, il faut faire des exercices de concordance. Il faut remettre les bonnes dates des grandes batailles de notre histoire. Et puis, il y a des choses plus ludiques entre les paroles de la Marseillaise qu'il faut retrouver ou sur la Carmagnole ou des choses comme ça. Vous voyez, j'ai voulu que ça soit ludique, amusant et varié. Des exercices qui, un peu comme des jeux de vacances, vous savez, dans les magazines, quand on est sur la plage ou à la piscine, et qu'on se fait des jeux. Donc c'est comme ça que on les a conçus avec mon éditrice chez Albin Michel.
Mais c'est ça, on le voit, des exercices ludiques, amusants, variés. Mon cahier de vacances secret d'histoire, donc chez Albin Michel. Nous, on s'est amusés avec l'équipe de La France Bouge à faire des petits tests. Il y a des jeux des 15 différences, des mots mêlés. On peut même apprendre à écrire son prénom en hiéroglyphe. Et puis, ou alors le point commun avec des monuments. On voit l'Institut du Monde Arabe, la Pyramide du Louvre, l'Opéra Bastille ou encore la Bibliothèque Nationale de France. Et là, il faut trouver le point commun avec tous les monuments. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que c'est destiné, j'ai envie de vous dire, à toutes les tranches d'âge.
Oui, c'était le but, parce qu'au fond, même moi, j'adore faire les cahiers de vacances des enfants. Je trouve ça tellement agréable. Ça permet de faire des révisions et je trouve ça plus amusant que des mots croisés ou sur la plage. Donc en fait, j'ai voulu que ça soit pour toutes les générations, parents et enfants, que tous ensemble, ils s'amusent et que ça soit l'occasion d'un jeu familial et de discussion entre les parents et les enfants.
Vous restez avec...
parce que je pense que ça permet de dialoguer en famille.
Vous restez avec nous, Stéphane Bern. On va continuer juste après une petite pause à parler et à raconter votre cahier de vacances secret d'histoire. À tout de suite.
Il est 13h38.
Europe 1.
On parle cahier de vacances aujourd'hui sur Europe 1 avec tous nos invités. Et on se retrouve dans un instant, Céline.
Oui, à tout de suite.
Europe 1.
On parle de cahiers de vacances cet après-midi dans La France bouge. Cahiers de vacances pour petits et grands, comme celui de notre invité. Mon cahier de vacances secret d'histoire, c'est Stéphane Bern qui est avec nous, Elisabeth.
Et oui, Stéphane Bern est avec nous, notre ambassadeur, l'ambassadeur de notre patrimoine. Hein, et on le voit à travers votre cahier de vacances, Stéphane Bern. Hein, plus que jamais, vous défendez, vous cultivez l'histoire sur tous les fronts. Et là, cette année, cet été, vous nous proposez, petits et grands, de nous réunir et de remplir votre superbe cahier de vacances. C'est aussi pour réinstaurer ou instaurer un lien aussi entre les anciens et les enfants, parce qu'avec le confinement, c'est peut-être un peu tous éloignés. On a dû faire la classe à la maison pour certains d'entre nous. Et c'est aussi une façon de renouer à travers votre cahier de vacances.
Oui, moi, ce que j'aime, vous avez raison de le souligner, c'est le lien familial avec l'histoire. Au fond, avant, on racontait les histoires, les aînés racontaient aux plus petits. Et là, maintenant, je propose justement que les petits s'emparent du cahier de vacances et qu'ensuite, ils interrogent leurs parents sur « Mais qui est ce personnage ? Raconte-moi son histoire » et qu'ils aient envie d'aller plus loin. Vous savez, moi, je suis dans l'idée de la transmission. Il faut transmettre le goût de l'histoire et du patrimoine. Il faut que les jeunes générations s'en emparent, d'abord parce que peut-être j'avance en âge et je me dis qu'il faut que la relève soit assurée. Et je vois l'appétence des jeunes peut-être qui augmente. Enfin, je ne sais pas si c'est sous l'effet de mes secrets d'histoire à la télévision.
Certainement,
mais en tout cas,
ça doit jouer.
J'entends, en tout cas, encore là, sur les routes de France, j'entends des jeunes me dire « Vous m'avez donné le goût de l'histoire ». Et au fond, j'ai envie que ça continue. Et souvent, ce sont les gamins qui poussent les parents à dire « Raconte-nous, papa, maman, racontez-nous l'histoire ». Et peut-être emmenez-nous aussi
visiter les
lieux d'histoire. Ils sont de plus en plus demandeurs. On ne peut pas leur raconter d'histoire là-dessus parce qu'ils connaissent bien. C'est eux qui sont, on le raconte notamment avec la réalité augmentée dans les monuments historiques, il y a une mise en perspective. Ce sont les jeunes qui sont finalement les incitateurs.
Ce sont les incitateurs pour transmettre, pour qu'ils puissent nous transmettre l'histoire. Marie-Éloi, notre coach, a une question pour vous, Stéphane Bern.
Oui, alors on connaît votre passion pour l'histoire et c'est vrai que ça transpire dans ce cahier de vacances. Je l'ai trouvé drôle, pas empoulé, effectivement intergénérationnel. On a envie de s'y mettre en famille le soir. J'avais deux questions pour vous. Vous dites que vous avez répondu aux différents exercices. Un, est-ce que vous avez réussi à répondre à tout? Et deux,
oui.
Non.
Ah, ça rassure.
Et bon, merci, ça va, on merci pour seule. Ça. Et deux, une question un peu plus sérieuse. On sait que les femmes sont souvent absente ou trop absente, en tout cas, des cahiers d'histoire. Est-ce que vous avez été attentif à ce sujet-là?
Oui, la première question, je n'ai pas répondu à tout, parce que j'avoue que ça fait des lacunes, ou en tout cas, notamment, il faut être honnête, sur l'Antiquité, je les mélange un peu tous. Bon, on va réviser ensemble. Maintenant, sur les femmes, c'est mon dernier tome, je crois que c'est le 9e de secrets d'histoire, mais version plus adulte, je me suis préoccupé de la place des femmes dans l'histoire. En réalité, les femmes ont écrit l'histoire. La seule chose, elles ne demandent jamais qu'on leur construise des monuments. Et elles ne demandent jamais, elles sont dans le réel, dans l'efficacité. Elles ne demandent pas qu'on leur édifie des mausolées, ni des porches, ni des arcs de triomphe. Ça, c'est réservé aux hommes qui sont un peu plus orgueilleux de ce point de vue-là et qui pensent travailler pour la postérité. Et donc oui, dans tout ce que je fais, notamment dans les émissions, mais aussi dans mes cahiers de vacances pour l'histoire ou dans mes secrets d'histoire, les femmes m'importent parce que ce sont elles qui ont écrit l'histoire. Soit elles ont agi directement, soit elles ont agi sur le cœur des hommes et elles les ont influencées, soit elles ont été des muses et des inspiratrices. Mais l'histoire s'est écrite par les femmes.
Et ben voilà, l'histoire est écrite par les femmes et vous avez raison, Stéphane Bern. Merci en tout cas d'être venu, enfin de nous avoir donné envie. Hein, et c'est vrai, on l'a consulté là dans l'équipe de La France Bouge. Mon cahier de vacances, secret d'histoire, chez Albin Michel. C'est dans les librairies depuis quelques jours. Et puis tiens, on a la joie aussi de vous retrouver sur l'antenne d'Europe 1, Stéphane Bern, dès le 24 août, aux côtés de Mathieu Noël entre 16h et 18h. Et on a hâte que vous nous racontiez l'histoire aussi autrement et à la radio. Merci à vous.
Merci à vous, bonne journée.
Bonne journée. À suivre des communes aussi hein, qui se bougent et qui n'oublient pas nos enfants parce que les cahiers de vacances, c'est très très important pour nos enfants. Tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir s'en procurer ou de pouvoir continuer à consolider les acquis de l'année. Puis là, c'est un été très particulier, un été spécial post-confinement. Eh bien, justement, la ville de Champigny, dans le Val-de-Marne, a distribué 5000 cahiers de vacances aux écoliers. Bonjour Valérie Zelioli.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes adjointe au maire en charge des affaires scolaires à Champigny. Vous avez distribué 5000 cahiers de vacances aux écoliers de votre ville. Comment vous est venue l'idée ? C'est une idée confinement ?
Tout à fait. Donc le 6 juin, la municipalité a pris la décision de lancer un plan d'urgence communal suite effectivement à la période de crise sanitaire qui est sans précédent. Et dans ce plan d'urgence, nous avons un volet éducation.
Donc vous avez un volet éducation. Vous déjà en plus, votre ville, ça fait des années qu'elle est sensible à l'éducation, hein, parce que ça fait déjà 28 ans. Depuis 28 ans, vous offrez à chaque rentrée scolaire des fournitures du CP au CM2. Donc c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, l'enseignement et l'école.
L'enseignement, l'école, et aussi la question des inégalités scolaires. C'est vrai que enfant doit pouvoir réussir dans sa scolarité. Et effectivement, à chaque rentrée, nous offrons des fournitures scolaires.
Alors, comment vous êtes organisé en si peu de temps pour distribuer tous ces cahiers de vacances à vos écoliers de Champigny ?
Alors, ça a été avec les agents de la commune. Je tiens d'abord à les saluer ici. Mais aussi avec notre libraire. Dans le plan de plan d'urgence, nous avons aussi un volet au niveau du commerce, hein, des aides au niveau du commerce et des entreprises. Et avec notre libraire.
Parce qu'il faut le dire, c'est une action qui a profité aussi à l'unique librairie de la ville. Et on sait combien les libraires, là, depuis cette crise du coronavirus, sont dans une situation extrêmement compliquée. Et donc, ça a aussi profité à l'unique librairie de la ville, hein, à la librairie L'Instant Lire de Champigny.
Voilà, tout à fait. Exactement.
Ouais, c'est vachement bien, ça.
Nous avons, du coup, eu l'expertise d'un professionnel. Et c'est comme ça que nous avons fait le choix de ces cahiers de vacances. Mais aussi, il nous a conseillé sur un roman, parce que les enfants vont aussi recevoir un roman-jeu. Le libraire avait de très bons retours faits par ses clients. Donc, du coup, on s'est dit, on va aussi en faire profiter les enfants. Et c'est comme ça qu'on a choisi ces cahiers de vacances ainsi que ce roman en jeu.
Bon, et puis un petit clin d'œil aussi pour votre petite fille, hein, parce que votre petite fille qui est dans la ville a reçu le cahier de vacances. C'est important, ça.
Oui, tout à fait. Bon. Alors, elle a préféré le roman en jeu.
Ah, ben voilà. Marie-Éloi, voilà. Notre coach a une question pour vous.
Non, c'est vrai qu'il y a une rupture d'équité scolaire depuis le début de la crise. C'est un vrai problème. Et on voit bien que vous êtes une petite ville et malgré tout, vous êtes emparée de ce sujet-là. Donc, on ne peut que saluer l'initiative parce que finalement, tout est une question de priorité. Et c'est vrai que l'éducation, en ce moment, en est une. Donc, j'espère que ça donnera envie à d'autres de faire la même chose, de suivre ce chemin.
D'ailleurs, il y a d'autres communes, hein, Dora, je crois.
Il y a d'autres communes. Il y a Béziers qui fait... Pardonnez-moi, voilà. Je vous disais, il y a d'autres communes. Il y a Béziers qui fait comme vous, qui a distribué plus de 6000 cahiers de vacances. Il y a la ville de Bouchain aussi, également dans le Nord, qui pareil, distribue pour les élèves de primaire, du CP au CM2, des cahiers de vacances pour tous.
Ouais, et on le voit, hein, Dora, il y a les cahiers de vacances, il y en a aussi pour les adultes, parce qu'on l'a vu avec Stéphane Bern, hein, parce qu'on peut, aussi participer. Et il y a aussi beaucoup de solutions digitales.
Oui, il y a des solutions digitales, quoi, des sites internet pour apprendre en s'amusant, qui
propose par exemple cette, là, ça se propose vraiment une application gratuite. Ça va plaire à Marie parce que c'est sur, c'est inspiré de Montessori. Ah. Il y a des cahiers de vacances gratuits aussi sur IMAG de l'éducation. Pour découvrir l'anglais, j'ai beaucoup aimé Cocora Lingua, en fait, qui s'inspire de Montessori également, qui propose en anglais des petites vidéos tournées par les enfants anglophones eux-mêmes. Donc ça s'adresse aux 3-8 ans et c'est très chouette également. Et toujours en gratuit, édition Rosas qui va de la maternelle au CM2 pour réviser, voilà, gratuitement.
Vous êtes convaincue, vous allez acheter vos cahiers de vacances, Dora, Marie,
j'en achète
Céline.
Tous les ans.
Ouais, moi, je vais prendre l'anti-cahier de vacances pour parents épuisés.
c'est une bonne idée. on va peut-être tous le prendre. Merci, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur tout ce qui se fait en matière de cahiers de vacances. Merci à vous, Valérie Zilioli. Je rappelle que vous êtes l'adjoint au maire à la petite enfance, à l'enfance, à l'éducation, à la mairie de Champigny.
Il est 13h50.
Vous êtes entrepreneur, vous avez un souci avec votre entreprise, vous avez peut-être besoin d'un coup de main. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est le coup de main de La France Bouge. À tout de suite.
C'est la dernière partie de l'émission avec le coup de main de La France Bouge. Vous avez besoin de ce coup de main, écrivez-nous, envoyez-nous un mail à l'adresse suivante e1-lafrancebouge.fr.
Et oui, parce qu'une fois que vous avez envoyé votre dossier, Nathalie Carré de CCI France l'épluche et va vous donner des conseils, des directions à prendre. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde.
Alors aujourd'hui, c'est l'association L'Ouragan du Rire qui détient la boîte du rire, la boîte à rire à Lille. Bonjour Sébastien Martinez.
Bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le programmateur et comédien. Alors la boîte à rire à Lille, c'est une salle de spectacle et je crois que vous avez besoin d'un sacré coup de main. On vous écoute.
Ben oui, le confinement a été très dur pour nous. Mais là, on voit un petit peu le bout du tunnel, mais oui, c'est effectivement, on ne savait pas si on allait rouvrir.
Mmh. Donc là, aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, il y a un billet solidaire qu'ils ont appelé, qu'on a mis sur le site internet de la boîte à rire. Mmh. Les gens peuvent acheter un billet et grâce à ça, on a pu rouvrir grâce à la solidarité des gens.
Donc les gens peuvent acheter un billet sans même venir au spectacle, hein, d'entre eux.
C'est bien ça, ils peuvent mettre
2 et 20 euros, c'est
voilà.
Ça.
Tout à fait.
Et ensuite, une fois que vous allez ouvrir et donc proposer des spectacles, à partir de juillet, vous allez, je crois, chaque week-end, hein, le vendredi, le samedi et le dimanche, proposer à nouveau des spectacles en live.
Tout à fait. On a déjà ouvert, en fait, depuis le 6 juin.
D'accord. Donc, quelle est votre question pour Nathalie Carré? De quoi avez-vous besoin?
Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus qu'on ne connaîtrait pas, parce qu'on est une association On ne connaît pas tout.
Vous n'avez pas eu le droit à un plan garanti par l'État. Donc déjà, ça, c'est un souci pour vous. Donc Nathalie, comment pouvons-nous aider Sébastien Martinez, qui est donc comédien et qui a cette salle de spectacle, la boîte à rire à Lille?
Alors bonjour, c'est vrai que ce n'est pas simple parce que vous êtes une association. Donc c'est vrai qu'il y a moins de choses pour les associations. Me demandez pas pourquoi. En revanche, vous avez quand même la possibilité, puisque ça, c'est ouvert à toute structure juridique, même les associations, à l'aide complémentaire du Fonds de solidarité. Donc, par rapport à votre chiffre d'affaires précédent, c'est 3 500 euros. Je suis d'accord, mais c'est toujours 3 500 euros.
C'est quand même une
et
somme.
Et vous savez que votre c'est quand même une somme. Savez que votre collaboratrice peut rester au chômage, chômage partiel, hein, puisque vous n'avez pas rouvert tous les jours, et avec une prise en charge à 100% jusqu'à la fin de l'année.
Oui, parce qu'il y a une personne salariée hein, dans cette salle.
Il y a une personne salariée, voilà. Donc comme elle n'est pas, je suppose qu'elle ne doit pas être occupée à temps plein, puisque les spectacles n'ont pas tous repris, vous pouvez
bénéficier de...
Vous pouvez continuer jusqu'à la fin de l'année avec une prise en charge à 100%. Les autres entreprises sont descendues à 80%. Vous avez comme tout le monde la subvention, vous savez, pour faire l'investissement, pour protéger, puisque vous rouvrez. Donc il faut protéger, peut-être mettre des vitrines, etc., pour protéger à la fois les comédiens, mais également le public. Donc il y a une subvention équivalente à 50% des achats réalisés. Donc c'est toujours parce que effectivement c'est de l'investissement. Je vous l'enverrai hors antenne. Après, vous savez évidemment qu'il y a toutes les aides pour les intermittents du spectacle. Vous devez maîtriser ça par cœur. Voilà. La bonne nouvelle quand même, c'est que le protocole de sanitaire a été allégé hier ou avant-hier. Donc Il faut le lire attentivement. En fait, l'État a décidé de donner plus de responsabilités aux dirigeants. Donc, il redonne simplement un cadre. Mais du coup, vous allez pouvoir probablement faire entrer plus de personnes dans votre salle.
Donc, faire revenir du monde.
C'est une bonne nouvelle. D'accord,
c'est quand même une bonne nouvelle.
Bah, c'est l'objectif.
Hein. Après, c'est l'objectif. Oui, l'idée, c'est vraiment que ça reprenne. Alors, avec masque éventuellement. Mais en tout cas, ça peut, vous allez pouvoir, vous n'êtes plus obligé d'avoir vos 4 mètres carrés autour de chaque personne. Après, je suis allée voir évidemment vos pièces de théâtre qui m'ont l'air fort sympathiques. Ce que je vois, c'est qu'en juillet, vous en avez beaucoup autour du couple. Et du coup, peut-être qu'on peut imaginer.
Et oui, sur la programmation.
Et ouais, parce que on pourrait peut-être imaginer, vous savez, il y a des couples qui ont été très chamboulés pendant le confinement. Donc on peut peut-être imaginer une espèce d'offre pièce de théâtre plus causerie avec l'auteur et un psy pour quelques euros de plus, histoire de l'idée c'est pas d'aller chez le psy mais vous abordez des thèmes qui l'air de rien oblige à se poser des questions. Voilà, donc je me dis peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Et puis vous avez une pièce sur la colocation. Et peut-être que vous pouvez imaginer un truc spécial colocation avec une retransmission en direct pour les colocs qui resteraient chez eux, histoire de, voilà, d'ajouter un peu de chiffre d'affaires.
Ça vous va, Sébastien Martinez? Je crois que vous êtes
un.
Il y a plein de choses. Vous allez pouvoir poursuivre votre conversation avec Nathalie Carré. Merci à vous, Marie-Éloi. C'est la fin de notre émission, de votre émission déjà. Vous
étiez toute la semaine.
Ouais, vous étiez le coach de la semaine. C'était bon de vous avoir parmi vous. Hein.
Moi aussi, ça m'a donné plein d'énergie d'entendre tous ces projets, tous ces territoires aussi. Donc j'espère revenir bientôt.
Et puis,
surtout, on a compris que tout était possible.
Et c'est ça qu'il faut.
Et l'émission le montre bien.
Merci à vous, Dora Nana. Merci pour cette semaine passée ensemble. Et puis, un merci tout particulier à vous, Céline Dacosta, parce que c'était la dernière aujourd'hui.
Mais oui,
alors,
ensemble.
Vous allez nous manquer.
Et vous allez me manquer aussi. Hein,
et on vous souhaite plein de belles choses.
C'est très
pour
gentil.
La
merci
suite.
Beaucoup.
Bonne fin de semaine.
C'était Elisabeth Assayag sur Europe 1. Et dans un instant, on retrouve Christophe Ondelatte.